The Community Media Advocacy Center is hosting a series of consultative events titled Building an Anti-Racism Strategy for Canadian Broadcasting. Made possible with support from the Anti-Racism Action Program at Canadian Heritage, these important and timely events will help confront barriers experienced by Black, Indigenous, and people of color in the media.
Events will be hosted in Montreal, Vancouver, Halifax, Calgary, and Winnipeg, culminating in a national conference to be held at Carleton University in Ottawa. These events will host presentations and open forums to develop an anti-racism strategy that will reduce barriers to participation in media and broadcasting policymaking for racialized Canadians.
Register for free to join the event in person at UQAM on Saturday, April the 30th. Presentations start at 10 a.m.
Complete details are online at www.antiracism.media.
This is a CKT Cole presentation.
You give me the bass. Listen, this one is not one like the long bass. Gangsta. Rasta. Difference between Rasta and Gangsta.
Bonjour à tous. Vous écoutez Le Lendemain de la Veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Comment ça va tout le monde? On est lundi matin, nouvelle semaine.
Qui commence
à l'instant. On vient d'écouter une pièce de Sons of Kemet.
Wow!
Qu'en as-tu pensé, Marc-André?
Merci de la découverte, Nelson. C'est sacoche. C'est un super bon groove. Explique-moi ça. Qui y sont?
Alors, c'est le groupe Sons of Kemet. On vient d'écouter la chanson « My Queen is Mammy Phipps Clark ».
OK.
Tiré de l'album paru en 2018, « Your Queen is a Reptile ». C'est donc du jazz, un peu influence afrobeat, mais avec un peu plus de lousse, là. Donc vraiment adapté. Là, c'est un peu reggae, dancehall, mais ouais. Très jazzy. C'est un groupe que j'ai eu l'occasion de voir en spectacle il y a tout récemment.
Chanceux. Pourquoi tu ne m'as pas amené?
À Montréal, au Théâtre Corona.
OK.
Tu n'étais pas disponible. Je pense que tu étais occupé à faire du tricotage avec
ta grand-mère. Des pantoufles en Fentex.
Exactement. Donc, Sons of Kemet, un groupe qui nous vient d'Angleterre. C'est un quatuor. Donc, il s'agit de deux cuivres, un saxophoniste, un tuba, deux percussionnistes, donc deux drummers.
Oh, ça, c'est intéressant.
Qui jouent en même temps sur scène.
Yeah.
Et vraiment, le show au Théâtre Corona que j'ai eu l'occasion d'assister, c'était exceptionnel. C'était vraiment incroyable. Donc, c'était une machine. Ces musiciens-là, c'est vraiment
T'en perds tes mots.
J'en perds ma voix.
T'en perds ta voix.
C'est des musiciens qui sont vraiment comme des machines parce qu'ils ont joué pendant environ 1h30, presque sans arrêt. Puis la foule était tellement dedans aussi. C'est vraiment de la musique sur laquelle on peut danser.
Oh, cool.
Puis c'est ça. Donc, des influences un peu afro, afrobeat, jazz. Puis écoute,
Des longues pièces un petit peu hypnoptiques, là, tu sais, qui
des longues pièces, un peu. Hein? Exactement. Vraiment enivrantes et des transitions entre les pièces. On savait pas trop
quand que ça finissait, quand ça commençait.
Exactement. Il y avait comme jamais de début de fin. Il y avait des transitions qui étaient plus lentes, mais avec des crescendo qui étaient super bien, super habiles, vraiment qui arrivent de nulle part. Puis là, boum, la chanson à part. Puis c'est vraiment le monde, la foule. Tout le monde était vraiment dedans. La salle était presque pleine, je pense qu'elle devait être pleine. Puis, donc, vraiment, on recommande Sons of Kemet.
Ben oui, belle recommandation.
Cet album-ci, paru en 2018, est vraiment excellent. C'est un album concept un peu où que tous les titres de chansons, c'est My Queen is.
Quelque chose.
Et c'est tous des personnages importants de l'histoire des Noirs.
Oui.
Et ce sont tous des femmes, en fait. Donc, la pièce ici, « My Queen is Mammy Phipps Clark ». Et cette personne-là, je l'ai googlée juste avant qu'on entre en onde. C'est une psychologue sociale américaine importante là, dans l'histoire des Noirs. Parce que c'est une psychologue qui s'est concentrée sur le développement de la conscience de soi chez les enfants noirs d'âge préscolaire.
OK.
Mais, par exemple, il y a une autre pièce de l'album qui s'appelle « My Queen is Harriet Tubman ». Harriet Tubman, qui était une femme dans l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, là, vers la fin de l'esclavage, qui a aidé beaucoup d'esclaves à s'enfuir des plantations de coton vers les États du Nord, où ils étaient déjà libres. Il n'y avait déjà plus d'esclavage.
C'est-tu elle avec le railroad?
Le underground.
Railroad.
Exactement.
Okay.
C'est ça.
On se comprend.
Ouais. Il y a même un film sur elle sur Netflix, je crois.
Ah, j'ai pas vu.
Ouais, je sais c'est quoi le titre.
OK.
Mais bref, on parlait de Sons of Kemet.
Ouais. Puis il y en a une sur Angela Davis, hein,
une chanson My Queen is Angela Davis.
Oh, cool.
Exactement. Nice. Donc c'est vraiment.
Dédié.
À propos. Ouais.
Cool. Eh bien, j'aurais aimé ça y aller. Je vais en écouter. Moi aussi, j'étais allé au Corona le lendemain, le 2 avril.
La même salle,
le lendemain.
Puis c'était-tu...
Pas la même crowd, par exemple.
Une conférence sur le tricot?
Oui, exactement. C'était Ésotérisme expérimental, le retour.
Ah.
Non, c'était le retour des old-timers du punk rock. Punk rock is back. J'étais excité. Je pense que c'est mon premier show en 2 ans de groupe non local. Parce que c'était des punk rock américains des États-Unis. T'avais les 7 Seconds et t'avais Circle Jerk, deux groupes légendaires du punk américain. Et il y avait un groupe aussi qui ouvrait parce que les Negative Approach des États-Unis n'ont pas passé, fait que les la frontière. Fait que c'était un groupe que je connaissais pas. Je vais vous revenir là-dessus. On va sûrement l'écouter. Et, le chanteur, son delivery, je pense qu'il venait du Nouveau-Brunswick. Fait que c'est un band canadien qui était actif dans les années 80-88. Ils ont arrêté And They're Back. J'avais jamais entendu parler d'eux. Demandez-moi pas c'est quoi le nom. Je vais vous le dire. Je vais le trouver, mais là, je ne l'ai pas.
Tu peux
le
googler pendant que tu parles.
Ah, ben excellent. Fais ça. Moi, pendant ce temps-là, je vais te dire qu'il y avait c'était aussi, je pense, guichet fermé, ou pas loin, en tout cas. Fait que c'était la ligue des old-timers, là, les old-school, les punks là, du Montreal hardcore scene étaient là. Oui, vas-y, est-ce que tu as trouvé le nom?
Non, pas encore. Non,
OK, je continue J'arrive mon histoire. Presque. Je continue mon anecdote. Et là, le spectacle était naturellement sur la scène, mais sur le parterre et dans la foule, il y avait des gens qui avaient façonné la scène qu'on appelle la scène Montréal Hardcore. J'ai rencontré le chanteur de Scum, des membres des Infamous Bastard, Chico et Celso, que je salue. Riff Raff qui joue dans Les Fucking Raymond, qui joue dans Révélation Zéro. Il y avait Alain et Joe de Grimmskong Fatal Illness. Il y avait Benoît Robitaille avec qui j'ai passé la journée, qu'on va avoir en entrevue prochainement. C'est le dessinateur, c'est lui qui a tout fait le visuel pour Grimmskong. Et c'était il chantait dans un groupe qui s'appelait Block Parents. Tu sais, dans les fenêtres, quand on était jeunes, il y avait Parents Secours. Oui. C'était une pancarte orange.
Blanche et orange avec une
main d'une maman.
Ouais. Ouais, d'une main.
Mais eux autres, ça s'appelait Black Parents. Puis Benoît Robitaille, c'est ça. J'étais allé avec lui au show, il connaît tout le monde. Et j'ai rencontré quelqu'un avec qui je parlais sur Facebook qui s'occupe de la page justement de Montreal Hardcore, des flyers, là, tu sais, de toutes les affiches qu'il y a eu entre 80 jusqu'à 88 à peu près. C'est Éric Roy, un homme très sympathique, on a jasé. C'est le fun d'associer des visages ou des noms à du monde que tu chattes sur des sites de ça.
Des sites de rencontres.
Des sites de rencontres de old-timer de Montreal Hardcore. Fait que tu as trouvé le nom du groupe?
Oui, ouais, ça s'appelle The Neighborhood Watch.
Exactement, c'est pour ça. OK, c'est ça. OK, c'est excellent.
C'est sûr que c'est ça, c'est écrit.
Ben oui, puis c'était. Il dit ça, où est-ce qu'il vient? Ah, tu vois, je vais le faire travailler.
Ah, faut que je clique ailleurs.
Ouais, ouais, vas-y.
Faut travailler, là.
Ouais, vas-y. Mais non, c'est ça, c'était vraiment, vraiment cool. Moi, je suis un fan des 7 Seconds. Je les avais jamais vus en show, plus que Circle Jerk. Je connais moins leur discographie. Les 7 Seconds, si toute la tournée américaine et canadienne, si vous allez sur leur Facebook, à chaque soir où est-ce qu'ils sont en prestation, la veille de Montréal ou après, ils étaient à Toronto, tu pouvais voir le spectacle en son entièreté. Fait que si tu ne peux pas voir le show, ils sont quand même très accessibles. Tu dis « Ah, je suis en dehors de Montréal, je ne peux pas voir le show », mais tu peux l'écouter en direct sur Facebook. Kevin Second, qui est le chanteur, qui est, je pense, le dernier membre original du groupe, si je ne me trompe pas. Très sympathique. A même, c'est ça, il a dédié le show à Chico, the Infamous Bastard, chanteur de la scène locale, qui a eu un accident et il a fait un shout-out. Fait que c'est, tu sais, les scènes hardcore, la famille du punk rock est unie. C'était très, très cool de voir ça.
Donc, Neighborhood Watch vient de Fredericton au Nouveau-Brunswick, qui ont été actifs dans les années 80 à 88 et réunis en 2015.
Yes, c'est ce que je disais, j'étais pas loin. C'est bon.
Bravo.
Bravo. Un morceau de robot pour moi, je me l'autoproclame. Le roi mage se l'autoproclame. Fait que c'est ça. Fait que c'est cool de se rebaigner là-dedans. Le son était très bon. Que dire des Circle Jerk qui ont beaucoup de disques? Keith Morris, qui a chanté pour les Black Flag. Tu sais, Black Flag avec Henry Rollins. Ben, il y a une mouture qui a été faite avec Keith Morris. Et Keith Morris, c'est aussi son propre groupe qui s'appelle Off. Et il y a aussi les Circle Jerk, qui a formé les Circle Jerk. Et le monsieur a 66 ans.
Oh, pas là, quand même!
Il n'a pas accroché ses patins, il n'est pas en retraite, il a encore un micro. et ils gueulent aussi fort que dans le temps, j'imagine.
Et pas l'air, OK, oui.
Et ces dreadlocks touchent presque par terre maintenant.
OK.
Je sais pas s'il va tirer des autobus à un moment donné, comme sideline. Oui, il va se mettre du duct tape, puis il va tirer des
jouer
autobus.
Jouer au golf, ouais. Mini-pot avec ses dreadlocks.
Oui. Petite anecdote, je veux pas trop parler de ça, mais j'ai envie d'en parler pareil.
Ah ouais,
c'est qu'il y a eu des concerts qui ont été annulés de la tournée. On était chanceux à Montréal que ça soit pas le cas parce que Kevin, le chanteur de Seven Seconds, la rumeur a dit que, tu sais, dans les shows punk hardcore, c'est sing-along. Fait que tu chantes, puis tu sais les paroles, puis tu fais chanter le public. Il y aurait mis son micro devant quelqu'un dans la foule dans un des derniers spectacles. Et pendant quelques 4 jours, il a été off à cause qu'il a été testé positif COVID. Fait qu'on était chanceux à Montréal, ça n'a pas été cancellé parce que les dates, ça déboule. Là, et à chaque soir, sont à quelque part. Fait qu'il y a ça qu'on était chanceux dans notre dans sa malchance. Là, On les a vus.
Il a eu le temps de guérir de la COVID. Puis faire son show à Montréal.
Oui, mais pas passer le micro. Et pour Circle Jerk, c'était super drôle quand Keith Morris a fini son set, sa dernière. Ils ont fait un rappel, mais quand il est revenu, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il. Tu sais, à la place de faire un drop mic, là, admettons, t'es fâché, un humoriste est fâché, il prend son micro, il lâche à la scène, puis il s'en va. Lui, il a débranché le micro. Le fil après le micro, le fil a tombé par terre, il a pris le micro, il se limite dans les poches, puis il est parti. Fait qu'il y a personne touche à son micro parce que ça va être leur fight, je pense.
C'est fini.
Il le met dans ses poches, puis c'est lui qui l'a.
Excellent.
Il a son propre micro.
Moi, je veux savoir, est-ce que tu as fait du body surfing durant le spectacle, Marc-André?
Non, j'étais sur le floor, le parterre pour le premier groupe. J'ai pas mis de bouchons aussi. Habituellement, je mets des bouchons. Je suis rendu à cet âge que je fais attention à mon système auditif.
Des bouchons dans
les oreilles.
Les oreilles.
Oui, pas ailleurs.
Pas ailleurs.
Non. Très bien de préciser. Bon appétit tout le monde. Bon déjeuner. Mais c'est ça, j'ai pas mis de bouchons. C'était quand même fort, mais je dis OK, je veux que mes oreilles bourdonnent. Ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas bourdonné 2 jours après le show. Fait que pour le premier groupe, Neighborhood Watch, j'étais là en bas. Après ça, Seven Seconds, ben c'est ça, on a rencontré Chico qui est en chaise roulante. Puis toute la gang de Montreal Hardcore était là. Fait que ma gang était là par inadvertance. Ben ça, c'est pas ma gang, mais Raph puis Benoît avec qui j'y allais, c'est leurs amis. Fait qu'on s'est tenus là. Puis c'était bien correct parce qu'en arrière de la console, qui était Sandman, c'était Marc-André Thibert, en arrière de la console au Corona, c'est là que tu as le meilleur son.
Oui.
Fait que c'est là qu'on était. Fait que puis on voyait très bien. Fait que pour Kevin Second, on est resté là. Puis pour Circle Jerk, même chose. Puis moi, je pense jamais aller en haut au Corona. Il y a une mezzanine, une salle, il y a une deuxième étage. Puis j'étais allé voir entre les entraques, voir que ça avait de l'air. C'était pas mal plein. Mais je me dis non, je vais redescendre en bas. Là. Je ne suis pas si pépère que ça.
Ouais.
Je dis pas que le monde est pépère qui vont là, mais un show hardcore, absolument, plus tu es proche, plus c'est le fun. Ma Circle Jerk, le pit, il était assez. Il avait l'air assez intense. Je ne m'aurais pas aventuré.
OK.
Je veux pas de broken bones.
Tu n'as plus cet âge-là.
J'ai plus cet âge-là, mais non. J'ai plus
faut que tu restes
là.
En vie pour exactement. Être capable d'être en forme, pour faire des émissions de radio le lundi matin.
Avec mon meilleur chum,
avec
c'est
moi,
sûr. Ben
sur
oui.
CKUT 90.3
FM.
C'est ça. Mm-hmm. Bravo.
Ben c'est ça. Fait que vive le retour des spectacles. Je suis excité. Seven Seconds, on va l'écouter tout à l'heure, je vous le promets. Mais là, je vais vous parler d'une bande dessinée qui est une série faite par des Espagnols. J'ai une version traduite. J'aurais pu l'aller en espagnol, mais non. Et là, le titre, ne vous trompez pas, c'est Black Sad. Et le titre est en anglais, mais c'est vraiment ça. Et c'est français. C'est fait par Diaz Canales et Guarnido. Bon, je suis bon en espagnol, mais quand je lis des noms, je ne sais jamais comment il faut le prononcer, mais on va dire que c'est ça leur nom. C'est deux Espagnols, un scénariste et un dessinateur. Et là, c'est vraiment intéressant pour que je vous parle de ce tome-là. On est rendu au tome 6. Ça s'appelle « Alors, tout tombe » et c'est la première partie. Ça, c'est ma bémol déjà en partant. Faut dire les vraies affaires. C'est que moi, OK, c'est une série, mais ils viennent tout juste de sortir de la première partie, mais là, il va falloir attendre quoi? 6 mois, 1 an, ou peut-être qu'il est déjà prêt, mais tu lis une histoire, puis ça arrête, c'est comme un...
Donc, il n'y a pas de conclusion, puis là, t'attends après la deuxième tome.
Ouais, puis je peux attendre longtemps.
On ne sait pas combien de temps.
Exactement. Mais là, vite, pour parler de ce dessinateur-là, qui est Juanjo Guarnido, qui fait les dessins et les couleurs, bien, c'est un monsieur qui dessinait pour Disney en Europe.
Ah, OK.
Fait que là, je vais te mettre la prémisse.
Il dessinait quoi?
Ben, il dessinait tout qu'est-ce qu'il y avait dans Disney. Ben, je sais pas.
Blanche-Neige?
Je sais pas. Mais
Robin des Bois.
Mais si tu vois le dessin, il s'est pratiqué pas mal, j'imagine, avec les animaux.
Oui, parce que chez Disney, il y a beaucoup d'animaux qui parlent.
Exactement.
Dans leurs dessins animés.
Et lui, je pense qu'il a gardé cette déformation-là professionnelle pour son héros, pour sa propre série qu'il a créée. Et là, c'est un chat, c'est un détective, c'est un private eye, c'est un loner, c'est un chat noir avec une moustache blanche. Et là, il enquête.
Un chat avec un corps d'être humain.
Oui, c'est zoomorphique, oui.
Puis bel habit complet.
Oui, un complet, cravate, veston, costard, vert, kaki, et un pistolet à la main. Et là...
Là, tu as sorti un gros mot, tu m'impressionnes, Marc-André.
Ben oui, ça m'arrive.
Zootropomorphique.
Oui, mais là, je ne veux pas me tromper. Là, tu me mets un doute dans moi. C'est que anthropomorphique, c'est quand...
C'est des êtres humains, des animaux qui ont des traits d'êtres humains ou le contraire?
Ou le contraire.
Bref, là, c'est des êtres humains avec des têtes d'animaux.
Non, c'est des animaux qui sont en humains.
OK.
Oui. C'est clair, on ne le sait pas, mais...
Oui.
Mais vous allez voir. C'est ça. Ça se passe, celui-là. Je l'avais, regarde. Si je lis un peu sa biographie, il dit « Le graphiste de Guarnido est toujours aussi époustouflant avec des couleurs chatoyantes. Je suis 100% d'accord. Un sens du cadrage et un rythme trépidant. » C'est très cinématographique, le cadrage. Quand il y a une expression, c'est très Sergio Leone, là, close-up ses yeux du chat ou de l'animal. Parce que là, c'est pas juste des chats. C'est pas juste des chats, des chiens.
Des souris et des chats.
T'as tout, là. T'as tous les animaux, là, des crocodiles. Puis tu sais, tu vas te dire, ah, le crocodile doit être méchant. Des fois, il peut être très gentil. Un animal que tu dirais, cet animal-là, est inoffensif, admettons un petit oiseau, ben il est hyper agressif là. Puis tu sais, c'est série noire, roman policier, fait qu'on sait pas qui est bon, qui est méchant, fait que il joue pas nécessairement avec les traits qu'on associe généralement à certains animaux.
OK.
Et là, tu vois, j'étais pas loin. Un sens du cadrage et là un rythme trépidant qui donne vie à ces personnages zoomorphes.
Zoomorph.
Bon, on va dire les vraies affaires, c'est Zoomorph. Puis là, le scénario de Canales, quant à lui, il mêle habilement la critique sociale et l'hommage au roman noir à l'ancienne. C'est très pulp, c'est très old school, c'est campé souvent dans les années 60. C'est pas précisé, mais il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas d'auto avec des gadgets électroniques. Là. C'est des vieilles américaines. T'sais, eux autres, je crois que ces Espagnols-là ont vraiment trippé sur une espèce du rêve américain là, à l'ancienne, là, après la Deuxième Guerre mondiale, plus ou moins.
Okay.
Et là, là, on veut connaître la suite parce que c'est du grand Black Sad. Comme je dis, c'est le troisième tome. Et là, je vais juste ouvrir la bande dessinée vite. Et à l'intérieur, ça commence par un Shakespeare in the Park. Ça veut dire qu'ils sont à New York pour cette histoire-là. Et là, Black Sad est avec son ami. Ils sont assis dans le gazon, comme qu'il y a à Montréal, là, les théâtres dans le parc, là, les fameux Shakespeare in the Park. Et là, il y a une représentation. Mais là, il y a des policiers. Et là, par exemple, c'est vrai, c'est plus des chiens qui font une arrestation pendant la représentation de la pièce de théâtre. Fait que là, ça fait un scandale, ça fait une émeute, il y a de la bisbée, et là, l'histoire commence. Fait que c'est super intéressant. Et là, qu'est-ce qui est drôle de toute cette affaire-là, c'est que Black Sad, là, peut-être pour les bédéphiles, tu sais, les tripeux de bande dessinée, c'est connu, mais du grand public, ça ne l'est pas, mais en tout cas, un peu moins. Mais en Espagne, c'est un phénomène, cette bande dessinée-là.
Ah oui?
Phénomène là, assez grand, parce qu'il y a un jeu thématique, style Panic Room, là, style Escape Room, qui est basé sur l'univers de Black Sad. Fait que tu as des indices, tu as des choses, puis des objets qui sont dans les bandes dessinées. Fait que, tu sais, c'est rendu quand même assez gros. Et là, ce que je tiens entre les mains, c'est comme une espèce de carton hologramme, tu sais, qui, si tu le bouges, il y a des effets. Et là, il y a un jeu PlayStation 4. Moi, je ne suis pas un gamer, je connais rien de l'univers des jeux de console, mais il est rendu là.
Il est rendu un jeu vidéo.
Il est rendu un jeu vidéo.
À partir d'une bande dessinée.
À partir d'une bande dessinée, et il y a la possibilité d'un dessin animé sous peu. Wow. J'espère qu'il va rester dans l'univers adulte. J'espère qu'il ne va pas essayer de faire comme... Tu sais, les Teenage Mutant Ninja Turtles, les premiers, c'était quand même plus adulte. Puis quand ils l'ont fait en jouet, puis qu'ils l'ont fait en dessin animé, ben on va aller chercher les enfants, tu sais.
Ouais.
Mais là, Black Sad, faut pas que ça devienne ça, parce que c'est un univers sex, drugs and rock and roll.
Mais faut dire aussi qu'on n'est plus dans les années 80-90, alors que, tu sais, des dessins animés pour adultes, ça n'existait pas vraiment.
Non, c'est vrai.
Donc là, il faut dire que je pense qu'il y a un public pour ça aujourd'hui.
Oui.
Donc, toutes les trentenaires et plus, là,
oui.
qui aiment ce genre de dessin.
Génération X aussi.
Exactement.
Oui. Oui.
Donc, ben, c'est super intéressant. Vraiment, les illustrations sont vraiment belles.
Puis, regarde le dos de la couverture, la quatrième de couverture. Tu vois un gratte-ciel, une prise de vue en contre-plongée.
De l'Empire State Building.
Et c'est magnifique. Les couleurs, le détail, le dessin, l'époque. Là, il a vraiment bien campé l'époque.
Je trouve que le personnage principal, là, on voit une image un peu, là, que il est là avec son habit cravate.
Ouais, son trench coat de détective.
Son trench coat de détective, puis la cigarette, il tient un peu quasiment comme Columbo.
Ah, ben oui. Ben ouais, il y a beaucoup de références à beaucoup de détectives. Et il joue un peu avec les clichés puis les stéréotypes là, du détective, du private eye. Et chaque titre de couverture, là, à un certain moment donné, faisait référence à une couleur. Et là, il y avait le tome 5 qui avait gardé son titre original, qui était Amarillo. Amarillo, toi, mon hispanophone.
Jaune.
Jaune, un basic jaune. C'était pas un basic jaune, c'était une auto jaune, genre une Chevy. C'était Amarillo. Et celui-là, il était campé là, dans un Nouvelle-Orléans de jazz, de beatnik. C'était vraiment... tu vois que les auteurs ils sont allés là-bas puis qui ont vraiment trippé la Louisiane, Bâton Rouge, tout ça. Fait qu'ils s'inspirent vraiment de la culture américaine puis ça leur donne une excuse pour voyager. Là. Ça, c'est ce que j'ai appris. Puis le réalisme social, culturel américain, là, il est hallucinant. Les tensions sociales sont présentes, les inégalités sociales entre riches et pauvres. Il y a des magnats des journaux, d'édifices. Puis c'est un oiseau, c'est comme un aigle, je pense. Puis, tu sais, sont méchants. C'est une rapace, tu sais. C'est incroyable. Puis le dessin, c'est la ligne claire, mais on dirait presque de l'aquarelle. Là. Les couleurs, là, c'est comme aquarelle. C'est super bien fait. Puis moi, au début, ça m'aurait rebuté. Ça m'aurait... des animaux qui parlent, tout ça. Moi, ça ne m'attire pas, généralement. Mais l'histoire est tellement solide que... T'as pas le choix d'embarquer. Là, t'oublies, à un moment donné, t'oublies que c'est un chat, c'est un chien, c'est un perroquet, c'est une belette, c'est un renard. T'embarques totalement. C'est du dessin de haut calibre. C'est du...
Très
c'est
détaillé.
Du solide. Ouais.
Vraiment beaucoup de détails dans les décors, les bâtiments. Tout est vraiment super réaliste. Vraiment, c'est du gros wow.
Oui. Fait que c'est ma recommandation de la semaine, toute la série.
On va aller sur ça, Marc-André, merci pour la suggestion. Black Sad, allez voir ça. Allez chercher ça dans vos librairies ou bibliothèques municipales. On va aller en pause. Au retour de la pause, on a plein d'autres choses pour vous. Restez des nôtres, les ondes de CKUT 90,3 FM.
Yeah! We'll be right back.
Vous vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter une pièce de 7 Seconds. Et je connais pas le nom de la pièce, mais je présume que c'est Young
Until I Die. Exactement. I'm gonna stay young until I die. Ça parle de moi, ça. Je vais être un éternel. Je suis une jeunesse.
Une éternelle jeunesse.
Oui.
Ou. C'est ça.
Oui. Quelque chose de même. Mais, ouais, 7 Seconds, l'album de Crew, je pense que c'est un de leurs meilleurs. J'ai même emmené la cassette en studio. Y a un de leurs grands thèmes. Ils ont repris 99 and Red Balloons, tu sais, le classique. Puis ils font une tune qui s'appelle If We Can Rock Together, Why Can't We? If We Can Walk Together, Why Can't We Rock Together? Ils ont tous joué leur pièce. C'est tous des sing-along songs. C'est vraiment le fun.
Ils ont joué ça.
Au spectacle au Corona avec les Circle Jerks.
Que tu as assisté récemment.
Récemment.
Pour les gens qui n'étaient pas là au début de l'émission.
Ben oui, mais il faut qu'ils l'écoutent de A à Z. C'est très important. Fait que Kevin Second, big shout out.
Seven Seconds ou Kevin Second?
Lui s'appelle Kevin Seconds. C'est le seul membre original qui reste.
Tu sais, dans ce temps-là. C'est Seconds.
Oui, c'est Seconds.
Wow.
Mais tu sais, dans le temps, les musiciens, tu sais, admettons Glenn Danzig, ben, le
Joey Ramone.
Joey Ramone.
OK.
Fait que c'est son nom d'artiste.
C'est pas son vrai nom, Kevin Seconds. Seven Seconds.
Ouais. 7 secondes.
Puis pourquoi 7 secondes? C'est le temps qu'il faisait pour.
Pour faire une toune.
Ah, OK.
c'était en accéléré. Hey, je vais faire une petite pub. Le magazine Sans Issue, on a déjà parlé dans d'autres émissions. Le dernier numéro, le numéro 27, ils sont rendus à 27. C'est cool au bout. C'est gratuit. It's free. It's even for free. Gratos. De décembre 2021. C'est la dernière copie que j'ai entre les mains. Et il y a toujours une exposition en cours. Et le vernissage, je l'ai déjà dit, c'est toujours le premier jeudi du mois.
Mais attends, mais pour les gens qui ont jamais écouté notre émission, là,
oui,
c'est quoi?
Qu'est-ce que c'est?
Ouais.
Là, c'est le magazine, mais c'est le magazine qui est affilié avec la galerie Sans Issue, 106U, jeu de mots de jeu. Et là, il y a un magazine qui, ce mois-ci, c'est Eric Brown qui est le fondateur. Il y était quatre fondateurs, si je ne me trompe pas, au début. Il y avait Jean-Michel Cholette, Eric Brown, Mimi Traillette et La Puce à l'agonie. Et là, sur la pochette, c'est M. Eric Brown, le grand Manitou. C'est une de ses œuvres qui est inspirée. Il est très symbolique, influencé par Bosch. Jérôme Bosch, mais d'un côté un petit peu plus cartoon, un peu plus heavy, mais c'est cet univers-là. Fait qu'il y a beaucoup d'artistes comme à chaque fois. Fait qu'il y a la revue et il y a l'exposition. Allez voir sur le site du Facebook, mais les vernissages, c'est toujours le premier jeudi du mois et celle qui est en cours présentement s'appelle Le Puce. Et à l'ando, je suis très heureux, très belle image. Juste avoir l'image, j'ai envie de déchirer la revue juste pour accrocher ce beau poster-là. À la galerie Robert Poulain, qui était le mécène d'un certain monsieur Henriette Valium, il y a une image d'une de ses peintures qui est. Je l'ai regardée là, en mangeant tout à l'heure, là, en déjeunant, bien sûr, et hallucinant.
Oui,
beaucoup de détails.
Très saturé.
Très saturé. Ça se passe à Montréal. Il y a des fils électriques, il y a le soleil, il y a ces personnages avec des faces de losanges. C'est si vous avez des sous, achetez une toile, mettez ça dans votre salon. La visite va en jaser longtemps.
Henriette Valium.
Represent. Et là, en parlant de bande dessinée, là, on tombe dans une bande dessinée, un récit noir initiatique. Là, vous allez dire, j'ai un parti pris. Effectivement, c'est très polar, c'est très série noire aujourd'hui. Là, dans la quatrième de couverture, on dit un roman graphique intense écrit par l'acteur et écrivain Ethan Hawke.
Ah oui?
Eh oui.
L'acteur qui écrit des livres, lui.
Eh oui.
Je savais même pas.
Puis là, bon, là, on vante les mérites de M. Hawke. Plusieurs fois nominé aux Oscars et illustré par Greg Root, un habitué des meilleures ventes du New York Times. Fait que, excusez, pardon.
C'est pas n'importe qui, là,
je fais du name dropping, mais c'est vraiment eux qui l'ont fait. Et oubliez ça, ça pourrait être Nelson et Marc-André. c'est pas les noms qui sont importants ici, parce que moi, je savais pas que... On, tu viens aussi surpris que moi de Ethan Hawke, OK, il écrit. Puis Greg Root, aucune idée c'était qui avant, mais c'est un one-shot, fait que c'est une histoire complète.
C'est quoi le titre?
C'est une brique. Ça s'appelle... T'es capable de le lire? Moi, j'ai peur de massacrer le nom. Meadowlark.
Meadowlark.
Ouais. Au Texas, dans la petite ville tranquille de Huntsville, Jack Meadowlark Johnson et son fils, fait que ça, c'est comme son nickname, parce qu'il est entre guillemets, mais demande-moi ce que ça veut dire, on ne l'apprend pas dans l'histoire, et son fils Cooper vont partager une journée épique. Tu sais, une journée là, père-fils, là,
oui.
Rock and roll. Rajoute du... qui vire mal, exactement. Fait que là, Cooper, c'est son jeune fils, va devoir se confronter au choix calamiteux de son père et lutter pour sa survie. C'est une grosse journée, là, quand tu fais une sortie avec ton père. Puis il faut que tu fasses, tu sais, c'est pas juste aller aux expos manger des hot dogs, là. Il se passe de quoi? Fait que, emportés dans un tourbillon de violence, le père et le fils vont, soudés, faire face à l'adversité et nouer une relation aussi dysfonctionnelle qu'émouvante. Sortez des Kleenex. Un récit noir et contemporain qui illustre, dis-je bien, toute la difficulté de la relation père-fils et du passage à l'âge adulte.
OK.
Je te passe la brique, je te montre le dessin. Là, le dessin, la ligne claire, très réaliste, cadrage serré. Et là, c'est pas noir du noir et blanc. Ouais, non? C'est noir, blanc. À la place d'être un sépia, c'est comme un...
Gris
bizarre. Mais c'est ça tout le long. C'est ça tout le long. Mais on embarque. Ça donne un petit côté comme nostalgie ou passé un peu à l'histoire, je trouve. On va appeler ça du sépia, là, mais c'est pas vraiment du sépia. Et là, le fils, il se lève le matin. Comme on dit, ça se passe dans une journée. Toute l'action, ça se passe dans une journée.
Intéressant.
C'est un one-shot. Il n'y aura pas de suite. S'il y a une suite, il va y avoir des zombies, il va y avoir des morts vivants. Et là, le fils se lève dans sa chambre. Il ne veut pas aller à l'école. T'sais, il va à reculons. Sa chambre d'ado, c'est un bordel. Et il y a un poster dans sa chambre d'un certain Jack Meadowlark Johnson, qui est son père en boxeur.
Une affiche d'un boxeur.
D'un boxeur.
Qui est son père
qui était son père.
Peut-être plus jeune.
Plus jeune, exactement.
Ah, intéressant.
Et là, son père travaille dans une prison. Et en prison, même s'il est gardien de sécurité, un gardien de prisonnier, il y a de la pression pour faire certaines choses.
Comme vendre de la drogue.
Illicite. C'est plus par rapport à des matchs de boxe, des choses un peu plus de la tricherie. On va pas en dire trop. Mais c'est. Puis là, ben, les méchants courent après, il y a un quiproquo. Et là, le fils il s'en allait porter son fils à l'école. Finalement, on va aller au travail avant, faut que je passe, puis tu arriveras en retard à l'école. Fait que là, c'est comme une chose après l'autre. Fait l'engrenage de l'histoire et on s'attache énormément au sort de ce petit garçon. Un peu mon père, mais le père aussi, on comprend un peu. Au début, on pense une crapule, comme j'ai dit dans le résumé, mais finalement, il est pris avec des décisions qu'il n'y a pas grand marge de manœuvre. Fait que ça, pour un acteur écrivain, l'histoire est solide. Ça me surprend qu'il n'y a pas eu de film. Ça me surprend même qu'ils n'en ont pas plus parlé que ça. Mais c'est super bien dessiné et c'est une it's a brick. Puis check comment que la couverture, le dessin du jeune garçon nous regarde et il y a un capuchon, un hoodie et c'est hyper réaliste et à l'intérieur ça respecte le dessin assez, parce que des fois dans les bandes dessinées on a souvent la déception de on a une super belle couverture, on a un super beau quatrième, tout l'emballage est super, puis le dessin à l'intérieur, ils ont comme pris des raccourcis, ils ont été un peu plus paresseux, mais dans ce cas-là, le dessin et l'histoire est sur la coche.
C'est très cinématographique aussi, je trouve.
Oui, c'est comme si c'était le comment qu'on appelle ça, pas le synopsis?
Le découpage.
Le découpage technique. Là,
plan par plan d'un film.
Oui.
Ben, il y a des close-up de très gros plans de mains, d'objets, et ensuite de visage, puis après des plans d'ensemble Beaucoup de pages sans texte aussi. Hein.
Ouais.
Beaucoup de
le non-dit, ouais. Pas de filataire. Il n'y a pas de filataire. Ouais.
Exactement. Donc, Meadowlark, écrit par Ethan Hawke et Greg Ruth. Et c'est une nouveauté, si je me fie au sticker sur la couverture.
Oui, oui, c'est une nouveauté. C'est frais, ça sort de l'imprimerie. C'est un
2022-2021.
Oui, c'est dur à dire. On le va-tu tout de suite en musique? Parce que moi, je vais avoir une autre bande dessinée. Puis je sens que j'ai parlé beaucoup. Là,
ben oui, on a le temps.
On a le temps?
Oui.
Écoutez bien ça, on va en reparler après, c'est promis. I never worked a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I never worked a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me.
Vous êtes sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Vous êtes sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Je vais le répéter pour être certain que vous avez bien compris. Vous écoutez le lendemain de la veille et on vient d'écouter. Ce n'était pas The Incredible Bongo Band.
Et non.
C'était un remix.
Du Mr. Fatboy Slim.
Donc, c'était une pièce originale du Incredible Bongo Band. Bongo Band.
Oh, les B.
Et la pièce Apache.
Apache. The Michael Wieners Incredible Bongo Band.
Donc, vraiment, vraiment bien. Ça vient d'où, ça, Marc-André, cet album-là?
Encore une fois, mes cueillettes dans les friperies et autres disquaires qui se débarrassent des CD pour une bouchée de pain, pour des miettes, c'est-à-dire. Et là, ben moi, j'en avais une couple de Fatboy Slim, mais là, j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, oh, c'est pas cher, je vais me le prendre. » Je voyais les tunes, je dis « Ah, oh, ça risque d'être pas pire. » Et ça l'est. Ça s'appelle « On the Floor at the Boutique ». Mix by Fatboy Slim. Et là, tu as plein de pièces, dont même ses propres pièces qui sont remixées. Les autres, j'y connais moins, mais les tunes, on les connaît, mais les artistes qui... Bon, tu as Jungle Brothers, ça, on connaissait ça. Clockwork Voodoo Freaks, moi, ça me dit rien. Fred Wesley and the Ornie Horns. ça me disait pas grand-chose. Mr. Natural, qui est un personnage de Robert Crumb, il aurait écrit une chanson qui s'appelle That Green Jesus. Mais ça sonne, c'est vraiment cool pour dessiner, c'est vraiment cool pour faire plein d'affaires. Moi, j'aime le petit sticker en bas qui dit, mais il est fait comme différemment un peu, Parental Guidance Explicit Lyrics.
Oui, on voit ça sur plusieurs pochettes d'albums.
Oui, mais il est pas... Il y a comme l'illustration, le design, il est un petit peu changé. Il est plus stretché vers l'horizon.
Ah, OK. Il a comme modifié le collant.
Oui, il a modifié, oui. Absolument, oui. Okay. Absolument, ils sont tous standards. Mais là, je sais pas si c'est pour niaiser. C'était différent. Là, j'ai un autre bande dessinée dans les mains qui...
Oui.
C'est des masters. Les trois, là, aujourd'hui, là, c'est vraiment là, du haut calibre. C'est pas pour me vanter. Ça a juste à donner comme ça. Black Sad, Middle Lark, et là, une autre série que je ne connaissais pas, qui ne m'attirerait pas en... Moi, la science-fiction, le fantasy, c'est pas ma tasse de thé. Ouais. Mais une fois de temps en temps, il y en a un qui se démarque. Et là, je l'ai entre les mains. Il est pesant. C'est Vicente Segreles. C'est un Italien. Ça s'appelle « Le mercenaire, première partie ». C'est une compilation des trois premiers albums. Et il va y avoir une deuxième partie qui va sortir bientôt. Et là, qu'est-ce qui est hallucinant de cet auteur-là, qui, comme je dis, c'est du fantasy. Du fantasy à la... je voulais regarder sur mon téléphone, je fais rarement ça. Frank Frazetta, qui est un artiste de bande dessinée, de peinture. C'est un Américain. C'est vraiment... cet auteur-là s'est vraiment inspiré de lui, mais il a quand même sorti son propre style, un petit peu, tu sais, Dungeon and Dragon. On vole sur des oiseaux volants qui sont comme des reptiles.
Des dragons,
des
peut-être?
Dragons, ouais, c'est assez... c'est assez flou comme... puis tu sais, des châteaux dans des pics de montagnes qui dépassent les nuages. Fait que, tu sais, l'influence de l'artiste Frank Frazetta est là, mais je pense que l'auteur s'est démarqué. Là, le plus surprenant de cette bande dessinée-là, qu'est-ce... Là, je te l'ai pas dit avant, là, l'émission, là. Les images, tu es en train de le feuilleter. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu...
Ben, je vois que c'est des dessins hyper réalistes.
Oui.
Vraiment, c'est frappant, là. Donc, par exemple, là, je tombe sur une image d'un gros plan sur un œil, puis c'est vraiment très, très, très réaliste.
Oui. Puis un petit côté médiéval aussi.
Oui, un univers médiéval, des chevaliers, des casques, en côte de maille, les armures, c'est ça exactement. Puis des créatures, des mages, des épées, des dragons, des châteaux.
Là, tu es debout. On est debout, là, mesdames et messieurs. Là, je sais que vous êtes en train de déjeuner, vous êtes peut-être assis, vous êtes dans l'autobus, vous allez au travail, vous êtes assis. Mais vous allez tomber en bas de votre chaise si vous êtes debout. Ce que tu vois là, chaque image, chaque découpage, chaque petit carré est une peinture faite à l'huile.
Oh.
C'est un travail monumental. Il n'y a pas là de... genre le visage en close-up d'un des personnages, puis juste un fond bleu ou un fond vert. Il y a du détail en arrière, il y a de la perspective, il y a un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan. C'est des peintures à l'huile. Fait que ça a pris des années à créer chaque dessin. Et là, t'as une page qui est à gauche, t'as plusieurs carrés, découpages, et tu as un masterpiece, tu as une peinture qui n'a pas de phylactère, que c'est une scène d'une procession sur un pont dans les airs avec des arcanes. C'est hallucinant. Imagine avoir ça dans ton salon.
Ben, c'est vraiment, si ce que tu dis est vrai, ben, c'est impressionnant, mais comme ça n'a aucun sens. Là, parce que là, on parle ici d'un 300 pages, là, 250 pages.
Oui.
Avec plusieurs cordes par page.
Oui.
Et ici, ce sont tous des toiles à l'huile.
C'est peut-être pas sur toile. Ça peut être sur un papier quand même. Là, ça, okay. Je veux dire, un papier toile. C'est peut-être pas la toile traditionnelle qu'on accrocherait au mur. Là, c'est peut-être plus un format un peu plus petit. Mais je ne te mentirais pas et je ne mentirais pas à notre auditoire, à nos auditrices et à nos auditeurs. Moi, c'est ce que, en faisant mes recherches, c'est ce que j'ai appris. Parce que moi, j'étais vraiment impressionné par le dessin. Comme je disais au début, Frank Frazetta, qui a fait, tu sais, la pochette du premier Wolf Mother, c'est lui.
OK.
Avant qu'il décède, il est décédé. Fait que, tu sais, tout cet univers-là, tu sais, Conan the Barbarian, tu sais, tout cet univers-là de monsieur presque en petite culotte avec une épée géante qui se bat contre des dragons, contre des monstres aquatiques. Ben c'est cet univers-là. Fait qu'il y a une grosse influence et c'est le même niveau, là. Mais il était moins connu parce que un est américain et lui est italien. Mais là, c'était traduit. Ils ont repris chaque planche. Ils ont tout avec la supervision de l'artiste, que tu peux répéter son nom si tu es capable de mieux prononcer.
Vicente Segreles.
Oui. Ils ont tout repris pour cette édition-là. Ils ont tout repris ces planches originales. Et ils ont tous, on va dire, peut-être rescanner, ou je ne sais pas c'est quoi le processus avant de les imprimer, mais c'est pour s'assurer que l'auteur était satisfait, c'est auteur-dessinateur, auteur-peintre de cette série-là, qui, comme je vous dis, moi, ça ne m'attire pas habituellement, tu sais, un petit côté, tu sais, homo-érotique, j'ai rien contre ça, mais tu sais, il est souvent comme en chess, les muscles. Tu sais, un petit côté douchebag médiéval, là, je sais pas trop. Tu sais, Dungeon and Dragon, fantasy, que l'homme va secourir la princesse, tu sais, un peu Star Wars, le premier Star Wars, tu sais, comme la princesse captive d'un méchant sorcier, puis est innocente, puis. Puis tout ça. Fait que ça, je trouve ça un peu comme cliché, mais il y a des inventions, il y a des idées très avant-gardistes pour l'époque. Il y a comme, on pense qu'il y a des moines qui torturaient justement une certaine captive, et on se rend compte que les moines sur le capuchon, ce n'étaient pas des hommes, même s'ils savaient se battre, mais c'était un clan de femmes. Fait que tu sais, il joue sur les stéréotypes, les standards. De la cape et de l'épée, si je peux dire.
Wow.
Moi, ça me fait capoter quand même. Puis l'histoire est bonne. L'histoire est bonne. Au début, c'est un petit peu cucu. Le personnage est vraiment naïf. C'est comme. C'est un chevalier. Puis il fait comme des. C'est comme un mercenaire. C'est comme un chasseur de primes. Puis des fois, il veut pas se faire payer. Il veut. Pour sa mission. Fait qu'il se fait pas payer. C'est un mercenaire. Il se fait pas payer en argent ou en pièces d'or ou en rien. Il veut, admettons, une meilleure épée, une meilleure monture qui est une espèce de dragon volant. Il veut une meilleure cotte de maille, il veut une meilleure armure. Mais c'est ridicule, là. C'est comme une quête sans fin. Puis il y a naturellement le méchant de service qui ressemble un peu au personnage de Flash Gordon, tu sais, qui était comme, je pense que c'était Xanadu. Non, c'était-tu Xanadu? Non.
Avec la moustache.
Ouais, la moustache, c'était comme.
Hey boy, c'est. Non, je
ouais,
sais pas.
Ben, lui, il est pas pareil, mais il y a une espèce de goatee, une espèce de petite barbichette blanche. Il y a comme un petit casse à la tête, des boucles d'oreilles. Puis, tu sais, il est vraiment colérique, méchant. Fait que c'est ma recommandation, même si c'est pas mon univers. Je pense que ça va plaire à beaucoup de fans de Donjons et Dragons et de.
Mais moi, ce que je remarque en feuilletant à l'instant même, c'est vraiment la lumière qui est vraiment.
Ouais, c'est fort.
Vraiment hyper réaliste. Là.
Ouais.
Puis vraiment, tu sais, le luisant sur la peau, sur les yeux, sur les objets, tu sais, les épées, les armures, c'est vraiment impressionnant le détail, là, comment. Donc, j'en doute pas que ce soit tous des toiles ou en fait, faites à peinture à l'huile.
Ouais.
Parce qu'effectivement, c'est de cette. C'est un médium qui permet ça, justement, d'aller chercher
exactement,
plus de lumière
exactement.
Sur la peau, sur les objets.
Même, puis, je pense, avec les nouvelles technologies, les expressions du visage, l'ombre et la lumière, comme tu dis si bien, ne seraient pas aussi crisp, ne seraient pas aussi
réussies.
L'architecture, il y a des barils en bois, on sent presque la texture du bois, le volume est là. C'est un gros trip visuel.
Donc, Le mercenaire
oui.
de Vicente Segreles. Donc là, ça, je vois que la publication, c'est 2021, mais ça a été écrit il y a plus longtemps que ça.
Oui. C'est vieux. Il a fait ça sur des années. Mais là, c'est comme une recompilation des trois premiers exemplaires. Et là, il y a une deuxième partie qui va sortir. Je ne sais pas combien il y en a en tout, mais j'ai déjà hâte de lire la suite.
Moi, ça fait penser vraiment à tous ces vieux films-là, Conan.
Ouais.
Même Princess Bride. Des histoires médiévales. Exactement.
Puis un petit côté cheesy, corny, je sais pas comment. C'est un petit peu. C'est du déjà vu, c'est du réchauffé, mais c'est du. Dans ce cas-ci, c'est du. Visuellement, c'est du beau réchauffé. Puis l'histoire, mais je sais pas trop où est-ce que ça s'en va. Est-ce qu'on y va en musique? Est-ce que j'ai le
temps? Il reste moins d'une minute. On peut partir en musique ou on jase?
On jase. Moi, j'aime ça, jase. J'aime ça avoir le micro. Je touche le micro. Don't touch the mic.
De quoi on jase, Marc-André?
Ben, de qu'est-ce qui s'en vient? On va avoir des entrevues prochainement. Super intéressantes. Il y a du monde qui se sont montrés intéressés. Du monde de...
Comme qui?
Ben, je ne vais pas nommer de nom avant que la... Tu sais, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Des gens dans quel univers?
Visuel, musical, qui ont côtoyé les gens. Tu sais, comme... ben, on va avoir un que je peux dire, parce que l'émission est faite, c'est Benoît Robitaille.
Benoît Robitaille?
Oui, Benoît Robitaille.
Ça vient d'entrevue à l'émission?
Oui, ben, l'émission, ben, ça va être diffusé plus tard. On a fait l'entrevue d'avance, parce qu'il habite loin, il habite à Sherbrooke, puis il a été très généreux de son temps. On a parlé peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure avant. On a fait l'émission. On a mangé un peu, on a repris des forces. Puis là, on voulait continuer, mais on avait un spectacle le soir. Fait qu'on s'est calmé le pompon, mais il y avait du stock. C'est un anthropologue.
Okay.
C'est un docteur. Il a un PhD. Et il se spécialise sur le tattoo. Il connaît la scène Montréal hardcore. Et comme je disais au début, c'est lui qui a créé l'univers des Grimmskunk.
À surveiller dans nos prochains épisodes du lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Restez à l'antenne. Bye bye.
Bye bye. Peace out.
C, C is for
cauliflower.
Confusion. Creation.
Pickle. K for
kitten.
Cam.
C, wait. Sandro. C. U, unbearable.
U is for underground.
Oh, yeah.
Umbrella.
T. Trite.
Tremendous.
Torment.
Tire.
C. K.
I can't think of a U one. T.
T.
F is for famous.
Fun. Fumble. M is for Montreal.
Living with the virus means remaining cautious. We must continue wearing a mask and washing our hands. At the first sign of symptoms, it's crucial to self-isolate and get tested. Those who have COVID-19 must respect the isolation period, since they can remain contagious for at least 10 days. Those most at risk for developing complications, either because of their age or because they're immunocompromised, must be especially careful. And for even better protection, get vaccinated. A message from the Gouvernement du Québec.
The following is a previously broadcast program.